France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Joséphine Reinhardt, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei et Antoinette Benoît, réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Raphaël Rousseau. Que ce soit les médias internationaux, l'industrie culturelle, les universités, les fonds d'aide humanitaire, Donald Trump a entrepris d'attaquer systématiquement les institutions de la puissance douce, soft power, auquel le père du concept, Joseph Nye, dit que le président actuel n'a tout simplement rien compris. Est-ce que Donald Trump n'a rien compris ou veut-il en redéfinir le contenu? Nous parlerons demain des universités soumises aux coupes claires, mercredi du cinéma, jeudi de l'aide au développement. Aujourd'hui, les médias américains à l'étranger, les États-Unis perdent leur voix.
Ces réseaux et ces journaux ne sont en fait pas différents d'un agent politique grassement rémunéré. Et cela doit cesser. Cela devrait être illégal. Ils influencent les juges et modifient réellement la loi.
Quand j'ai appris que 1300 de mes collègues avaient été suspendus immédiatement avec salaire et dans un email disant qu'ils ne pouvaient plus travailler, qu'ils ne pouvaient pas entrer dans le bâtiment, je savais à ce moment-là que Voice of America allait mourir très rapidement.
Radio Free Europe, Radio Liberty est un outil de la politique étrangère américaine. Cela fait vraiment partie du soft power américain. On l'appelle même le côté dur du soft power, tant la radio est efficace pour faire connaître la vérité sur l'Amérique.
Le soft power ou l'habileté à séduire et à attirer, comme le théorisait le géopoliticien John Nye en 1990, soit au moment où l'URSS était sur le point de tomber comme un fruit mûr, il n'était alors plus la peine pour les États-Unis de s'acharner contre leur ennemi comme ils l'avaient fait, y compris sur les ondes. Désormais, exercer une mystérieuse séduction suffit, pensent certains à Washington, comme lors des premiers pas sur la Lune, quand des millions de téléspectateurs et d'auditeurs dans le monde entier s'étaient découverts fascinés par une aventure spatiale qui ne les concernait pourtant que de très loin, découvrant l'extrême légèreté de l'être, comme si leur bonheur sur Terre en dépendait. Les mots sont de l'écrivain Jean-Paul Dubois. Alors certes, Voice of America, Radio Free Europe ou Radio Liberty n'avaient pas pour seule mission de faire rêver un peu. Il s'agissait surtout de diffuser un point de vue états-unien sur les choses, d'assurer aussi un certain pluralisme dans des pays qui ne le permettent pas, où on écoute ces programmes en ondes courtes, seulement dans l'intimité des foyers. Mais à quoi sert une voix radiophonique en 50 langues quand Donald Trump estime que ses tweets suffisent à dicter la marche du monde? Le 14 mars dernier, il signe un décret pour geler les financements de l'Agence des États-Unis pour les médias mondiaux et mettait en congé le personnel de Voice of America, tous des gauchistes selon lui. Veut-il simplement les rendre aphones, ces médias-là, ou diffuser un autre récit à l'étranger? Nous en parlons ce matin avec nos invités. Bonjour Tristan Matelard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Panthéon-Assas. Vous avez notamment coordonné l'ouvrage « Géopolitique des télévisions transnationales d'information » chez Maré Martin et le numéro de la revue « Questions de communication » portant sur la diplomatie publique à l'heure des réseaux. Bonjour Maud Kessar.
Bonjour Julie Gacon.
Et bienvenue à vous. Vous êtes directrice du domaine Europe, Espace Atlantique, Russie à l'IRSEM. Vous co-dirigez l'Observatoire de la politique extérieure américaine, l'OPEXAM. Et vous avez écrit Stratégie d'influence et guerre de l'information, propagande et diplomatie publique des États-Unis depuis la guerre froide aux presses universitaires de Rennes. Alors Maud Kessar, à l'heure où on parle, est-ce que des rédactions de Voice of America, de Radio Free Europe ou de Radio Liberty ont déjà fermé ou l'affaire n'est pas encore entendue?
Alors l'affaire n'est pas complètement entendue, mais elle est très mal engagée, autant pour Voice of America que Radio Free Europe. car suite donc à l'annonce tonitruante de l'administration Trump que vous rappeliez mi-mars et qui visait donc à débarquer littéralement les journalistes de Voice of America et de Radio Free Europe, Radio Liberty, puisque le groupement, en fait, la structure qui dirige ces radios, c'est USAGM. C'est USAGM donc qui est visé par le président Trump et son administration. Et bien sûr, le directeur qui a réagi le plus rapidement, c'est le directeur de Radio Free Europe, Radio Liberty, qui a porté plainte. Et à l'heure où l'on parle, en fait, la justice américaine a réagi. Et c'est notamment un juge de district américain, qui est Royce Lambert, qui a estimé que l'administration et donc Kerry Lake, qui a été nommé à la tête de USAGM par l'administration Trump, eh bien, aurait violé la loi en mettant un terme au financement de Radio Free Europe et Radio Liberty, car il faut rappeler en fait que ces radios sont des organisations qui sont d'abord désignées par le Congrès et pas par l'exécutif, c'est très important, pour mettre en œuvre finalement une politique de médias publics à l'étranger qui fait partie d'une forme de mission de service public à l'américaine pour diffuser, enfin s'adresser donc dans plus d'une cinquantaine de langues aux populations étrangères. Donc d'une certaine manière, on assiste là à une extension des pouvoirs du président, une présidence impériale qui va même au-delà, qui est une dérivée autoritaire. Et donc, il y a quand même encore aux États-Unis la possibilité de saisir la justice, et la justice est en train d'essayer d'exercer son pouvoir de contrôle. Ce qui met en danger les journalistes tant de Voice of America que de Radio Free Europe, Radio Liberty, c'est que même s'ils bénéficient de fonds qui ont déjà été votés par le Congrès, il faudrait que d'abord leurs journalistes ne soient pas licenciés et aussi qu'ils puissent continuer à bénéficier de nouveaux fonds pour maintenir en fait leurs activités, surtout donc à l'étranger et auprès de leurs affiliés. Mais ça, on pourra y revenir, bien sûr. Donc, à l'heure où nous parlons, la bataille juridique est engagée à Washington et les dernières conclusions de la Cour disent que, conformément à la décision de longue date prise par le Congrès, la poursuite du fonctionnement de RFE et RL en particulier est dans l'intérêt du public. Donc, c'est un débat politique, constitutionnelle et juridique qui est engagée à Washington à l'heure où nous parlons.
Tristan Matelard, c'est vrai que le Congrès a déjà voté les fonds pour l'année fiscale en cours en ce qui concerne Voice of America et ses radios qui sont au cœur de notre discussion aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, ça veut dire que politiquement, les élus sont censés avoir leur mot à dire, qu'ils soient républicains, démocrates. Ils sont censés tous avoir un avis sur l'importance de ces chaînes états-uniennes vers l'extérieur, sur leur pérennité aussi.
Oui, il n'est pas certain que tous les républicains soient d'accord avec cette décision. Ces radios existent depuis longtemps et il y avait un relatif consensus sur leur pérennité. Sur la question de la façon dont ces radios ont dû ou pas arrêter leurs émissions, ça se pose en termes différents en fonction des radios. Si vous allez sur le site de la Voix de l'Amérique, vous rendrez compte assez rapidement que depuis la mi-mars, il n'y a plus donc d'actualité de publier. Par contre, dépendant de la Voix de l'Amérique, il y a la radio et la télévision Marti qui diffusent vers Cuba. Et celle-ci continue à publier des informations sur son site web en tout cas. Lorsqu'on va sur la radio Free Asia, qui a été créée au milieu des années 90, sur laquelle on reviendra peut-être, on tombe assez vite dans sa version en anglais sur un petit texte avertissant qu'ils ont été obligés de réduire la production éditoriale.
Donc ça veut dire que certaines de ces chaînes ou antennes ont conservé des moyens à peu près identiques comme Radio Marti qui diffuse à destination de Cuba et que d'autres non.
Alors, conserver des moyens, c'est difficile parce que sur le site de Radio Free Europe et de Radio Liberty, ces médias avertissent sur le fait qu'ils ont dû commencer depuis début avril à licencier des journalistes parce qu'ils ne recevaient pas l'argent qui avait été promis par le Congrès. Et un des enjeux de la bataille que rappelait Maud, c'est d'obtenir que ces radios, Radio Free Europe, Radio Liberty et les autres, puissent bénéficier de la subvention du Congrès pour l'année fiscale en cours.
Donc c'est une question de moyens, c'est une question de loi et la bataille juridique Maud Kessar en cours, vous nous l'avez bien rappelé. Il y a aussi techniquement le fait que Washington, tout début avril, a littéralement éteint le satellite qui permettait la transmission de la chaîne de télévision, non pas de radio, mais de télévision en langue russe de Radio Free Europe, ce qui fait dire à Stéphane Kapus, le patron de Radio Free Europe et de Radio Liberty, on a l'habitude que des autocrates nous mettent des bâtons dans les roues, mais que l'attaque vienne de l'intérieur, ça on ne s'y attendait pas, dit-il. Pour planter ce paysage de l'appareil audiovisuel extérieur américain, Tristan Matla rappelait les radios comme Radio Marti à destination de Cuba, Radio Free Asia qui a été créé en 96, ou encore les radios à destination de l'Iran comme Radio Farda. Mais le noyau dur, c'est Voice of America, Radio Liberty et Radio Free Europe. Comment les distinguer, ces trois radios-là, tant du point de vue de leur gouvernance, comme on dit, que des auditeurs auxquels elle s'adresse?
Alors, je vais bien répondre.
Oui, allez-y, Maud Kessar, c'est à vous.
Oui, en fait, c'est extrêmement important de faire cette distinction. D'abord, pour faire cette distinction entre ces différentes radios, il faut comprendre dans quel contexte elles sont créées. Voice of America donc, est héritée de la Deuxième Guerre mondiale et elle s'inscrit dans un contexte où les Américains veulent répondre à l'Allemagne nazie. Les radios de l'ombre, qui sont Radio Free Europe et Radio Liberty, qui sont créées au moment de la guerre froide et donc et qui prennent leur essor dans les années 50, sont deux radios qui sont distinctes au départ, et l'une émet à destination depuis donc le monde libre et depuis l'Allemagne vers la Russie, il s'agit de Radio Liberty, et Radio Free Europe, elle, va émettre à destination des pays du bloc soviétique pendant toute la période de la guerre froide. Vous rappeliez à juste titre que le satellite qui permettait donc de diffuser en langue russe des images, c'est au cœur nucléaire, je dirais, de l'appareil des médias d'État américains. Effectivement, si on les sape de l'intérieur, on se demande si ces emblèmes finalement de la parole libre, de la liberté et aussi de la parole donnée aux sans-voix, aux dissidents, aux opposants à des régimes autoritaires, et n'est pas aussi confisqué maintenant donc par les États-Unis. Et c'est toute cette portée-là qui est extrêmement importante dans le moment que nous vivons. Donc la distinction qui est aussi à noter dans le moment pour nous de ce côté de l'Atlantique que nous vivons, c'est la guerre en Ukraine, et c'est donc l'impossibilité pour des opposants russes ou des soutiens ukrainiens que les Américains leur fassent bénéficier aussi de cette possibilité en fait de porter une parole d'opposition à celle de Poutine. Et pour nous Européens, c'est extrêmement inquiétant.
Guerre en Ukraine dans laquelle les États-Unis ne se sont jamais formellement engagés, même s'ils ont livré pour des milliards d'aides, notamment sous le mandat de Joe Biden. Alors que quand Voice of America commence à émettre, c'est vraiment quelques semaines après que les États-Unis sont entrés en guerre, dans la Seconde Guerre mondiale en décembre 41. Plusieurs semaines plus tard, Voice of America commence à émettre.
Hier spricht eine Stimme aus Amerika. Aus Amerika im Krieg. Unsere Stimmen kommen zu Ihnen aus New York.
This is a voice speaking from America.
A voice from America at war.
Our voices are coming to you from New York. Across the Atlantic Ocean.
Tristan Matlar, est-ce que la Seconde Guerre mondiale a déclenché le projet états-unien de mettre en place une radio qui se ferait l'écho des valeurs américaines et de fait la porte-parole de Washington, ou est-ce qu'elle ne l'a qu'accéléré, ce projet-là? Est-ce qu'il préexistait à la Seconde Guerre mondiale?
On peut considérer qu'elle l'a déclenché. Il y a des discussions autour de la création d'une radio gouvernementale pour faire face à la montée des propagandes nazies et soviétiques. Il y a des discussions dès 1938 qui ne vont pas aboutir parce qu'il y a une opposition forte des radiodiffuseurs nationaux privés, les grands networks radiophoniques américains et leur lobby. Donc, avec l'entrée en guerre des États-Unis, cette résistance saute évidemment. Et en février 1942, la radio Voice of America, comme on vient de l'entendre, commence à diffuser. Donc on a affaire avec Voice of America à une radio spécifique par rapport à Radio Free Europe et Radio Liberty. Il faut souligner la différence entre les deux. La Voix de l'Amérique, c'est une radio gouvernementale qui diffuse au nom du gouvernement américain, même si par la suite elle va acquérir son indépendance éditoriale, c'est aussi important à souligner. Et pour Radio Free Europe et pour Radio Liberty, on a des radios différentes. Mm. En quoi sont-elles différentes ?
Ils ont créé un petit peu plus tard. Hein. Radio Free Europe, c'est 1950, Radio Liberty
exactement.
En 1953.
Donc on est dans le contexte de la guerre froide. Voice of America est engagée dans cette guerre froide au nom du gouvernement américain, au nom officiellement du gouvernement américain. Et du côté de l'administration américaine, on se dit qu'il est nécessaire de doubler la puissance radiophonique de la Voix de l'Amérique par d'autres radios moins officielles, à la marge de main-d'œuvre donc plus grande. Et c'est ainsi que vont être créées en 1950 et 1953 les deux radios, Radio Free Europe et Radio Liberty. Au début, il faut le souligner, elles sont financées par la CIA.
Et ça, on le saura qu'un petit peu plus tard.
On l'apprendra à la fin des années 60. Hein, là, il y a une grande crise, évidemment. L'avenir de ces radios est mis en danger et elles ne vont être pérennisées qu'au début des années 70.
Mais avec une indépendance éditoriale, dites-vous, y compris pour Voice of America, qui au départ est vraiment la voix du gouvernement américain et qui obtient cette indépendance éditoriale un peu plus tard. D'ailleurs, d'abord, au terme de quel genre de débat et de bataille, et qu'est-ce que ça veut dire éditorialement ? C'est-à-dire, quels agents de la diplomatie extérieure états-unienne ces radios ont-elles vraiment été, leur façon de s'adresser aux auditeurs, jusqu'où était-elle guidée par Washington au-delà de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide, puisque ces radios ont subsisté après ce qui était leur raison d'être.
Oui, alors l'indépendance éditoriale de la Voix de l'Amérique, elle est inscrite, pour commencer, hein, dans une charte, la charte de la Voix de l'Amérique. Donc, qui est un document de 1976. À partir de là, ce qui va être créé, c'est ce que les Américains appellent un firewall, hein, un pare-feu qui est destiné à protéger l'indépendance éditoriale de ces radios. Il faut voir que l'indépendance éditoriale de ces radios, elle est importante pour assurer leur crédibilité. Or, leur crédibilité est une condition essentielle de leur pouvoir d'influence. Donc, on a affaire à des institutions qui sont drôlement complexes, hein, parce que elles sont investies de missions d'influence, hein, propager les idéaux américains. Le calcul derrière ces radios, c'est en propageant une certaine conception de la liberté d'informer, on anime des opinions indépendantes, on alimente des opinions indépendantes qui vont pouvoir exercer une pression sur les gouvernements autoritaires et amener ceci à converger vers les idéaux américains. C'est en cela que ces radios sont des instruments de politique extérieure, mais à la différence de la diplomatie traditionnelle où on s'adresse à d'autres gouvernements, ces radios, hein, elles s'adressent par-dessus la tête des gouvernants étrangers aux opinions extérieures.
Et d'ailleurs, Maud Kessar, est-ce qu'on sait, et vous vouliez réagir à ce que disait Tristan Matelard, et par ailleurs, est-ce qu'on sait qui sont ceux et celles qui les écoutent réellement, ces radios, à l'extérieur des États-Unis ?
Alors oui, il y a des publics cibles en fait, hein, parce que l'idée c'est de pouvoir faire un ciblage dans un contexte particulier qu'on vient de rappeler, qui est celui de la guerre froide. Mais j'aimerais souligner quand même une distinction importante et un point de structurel. Là, on parle donc d'un soft power américain, qui est le thème de votre émission, qui est un soft power étatique organisé. Donc si on parle de ligne éditoriale, il y a d'une part avec la Voix de l'Amérique une ligne éditoriale qui va quand même dépendre du département d'État et qui propose des programmes qui sont quand même alignés sur en fait, la position politique du département d'État, qui est assez claire. Jusqu'à la fin des années 60, comme le rappelait Tristan Matelard, jusqu'en 67, Radio Free Europe et Radio Liberty, comme elles sont financées par la CIA, la marge de manœuvre éditoriale est peut-être plus grande en réalité, parce qu'ils ne dépendent pas de la même ligne et ils ne sont pas regroupés sous la même structure. Et pourquoi la marge éditoriale est un petit peu plus large et elle ne s'adresse pas au même public? Parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, Radio Free Europe et Radio Liberty donnent la possibilité aux dissidents et aux opposants de s'exprimer sur ces radios. Donc, dans un cas, on a des journalistes qui, certes, vont essayer d'avoir une indépendance éditoriale et une crédibilité à l'international. Ils sont représentés par Édouard Meurot, qui est en fait la figure de proue de ces médias d'État et de leur crédibilité après le McCarthyisme aux États-Unis, c'est très important de le souligner. Et de l'autre côté, on a donc ces radios qui vont davantage cibler les préoccupations des publics dans le bloc de l'Est, dans l'espace soviétique, parce que c'est justement la parole de ceux qui sont aussi réfugiés. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait de pouvoir, cette idée de vouloir donner la parole au sein d'États donc autoritaires et dans des espaces informationnels fermés à ceux qui n'ont plus de voix ou qui sont particulièrement dissidents.
Tristan Matelard. Oui, pardon, Tristan Matelard voulait réagir. Oui.
Je finis juste ce point, c'est que ce qui est très intéressant aux États-Unis, c'est que l'institutionnalisation de ce soft power et l'articulation entre ces différentes radios se fait sous l'égide d'une agence paragouvernementale qui est l'Agence d'information des États-Unis et qui est une agence assez unique en son genre et qui est créée en 1953 par Eisenhower et qui va regrouper en fait l'ensemble des activités de ces radios, et on y reviendra dans des périodes très intéressantes comme le début des années 1980.
Tristan Matelard.
Oui, oui, pour continuer sur ce que disait Maud, on a affaire à un modèle de radiodiffusion différent avec, avec Radio Free Europe et Radio Liberty. Elles sont conçues par leur promoteur dès le début des années 50 comme ce qu'ils appellent à l'époque des surrogate home stations, c'est-à-dire des radios qui ont vocation, selon eux, à se substituer aux médias locaux indépendants qui sont interdits à cette époque-là par les pays d'Europe de l'Est et par l'URSS. Donc on a une autre conception de ce que doit être la radiodiffusion extérieure. C'est Radio Free Europe diffusant à destination de la Pologne, à destination de la Hongrie, est conçue comme un média national établi à Munich par la force des choses, mais animé par des journalistes exilés, hongrois, polonais.
Et si on regardait dans le détail certains épisodes de l'histoire récente, notamment états-unienne, mais où les États-Unis ont été impliqués et où aujourd'hui on peut très largement critiquer la façon dont ils se sont comportés, que ce soit la guerre au Timor oriental ou, enfin, il y a mille exemples, mais parler aussi de la guerre du Golfe qui a été un moment où la guerre de l'information a fait rage. Est-ce qu'on peut aujourd'hui évaluer l'indépendance dont on fait montre ces médias-là par rapport à l'époque à la doxa états-unienne? Est-ce que dans le détail on sait, Hervé Matelard, un petit peu comment ils ont... Est-ce qu'ils étaient vraiment pluralistes à ce moment-là?
Donc c'est compliqué parce qu'on a affaire à un grand nombre de médias et qu'on n'a pas d'études de contenu sur l'ensemble de ces médias. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il y a, en fonction du contexte, il y a des batailles plus ou moins difficiles. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous lisiez les informations de la Voix de l'Amérique à destination de l'Afrique, par exemple, avant leur fermeture à la mi-mars, vous aviez s'exprimer très clairement des critiques contre l'administration Trump. Mm-hmm. Sur Radio Marti, vous pouvez avoir
la radio à destination de Cuba,
vous pouvez avoir des articles qui traite de façon différente par rapport à la ligne de l'administration américaine, les questions relatives à l'immigration.
Depuis quand ces radios, en particulier Voice of America, censées donc être la voix de l'Amérique, portent sur cette Amérique un regard critique? Maud Kessar, est-ce que c'est nouveau, lié au premier puis deuxième mandat de Donald Trump, ou de tout temps, on va dire, ces radios ont été à la fois critiques du pouvoir et critiquées par lui?
Alors, on le rappelait, la nécessité pour ces radios, c'est d'être crédibles aussi à l'étranger, puisqu'elles sont leur contenu et leur cible, c'est les populations étrangères. L'idée, c'est pas forcément au départ qu'elles soient nécessairement critiques, mais qu'elles portent un modèle américain qu'on peut envier. Là, on est au cœur du soft power. Vous disiez en introduction de cette émission que l'idée du soft power, c'est donc de séduire et d'attirer. Et d'attirer vers quoi ? D'attirer vers un modèle américain et donc une parole et un modèle institutionnel que les populations étrangères pourraient suivre. Donc la marge de critique, elle reste quand même de facto, par rapport aux missions de ces radios, un petit peu plus faible. Leur mission n'est pas de critiquer le pouvoir, on n'est pas sur le territoire intérieur. Leur mission, c'est d'expliquer les positions américaines à l'extérieur. Donc c'est un petit peu différent. Toutefois, dans la période dans laquelle nous nous trouvons et par rapport à l'administration Trump, comme les missions de départ, les missions éthiques de ces radios étaient aussi de porter la parole du monde libre. Si le pouvoir en place aux États-Unis, fût-il américain et fût-il en partie leur employeur, ne correspond pas à cet ADN-là, les journalistes font leur travail puisqu'ils sont là pour soutenir la liberté de la presse et surtout quand on est face à des régimes ou à des dérives autoritaires. Voilà, mais ce que je voulais rappeler peut-être, c'était votre question qui est très intéressante, sur la capacité, l'impact de ces différentes radios et est-ce qu'on peut avoir un peu de retour sur leurs différentes actions. Il n'y a pas forcément d'évaluation qui soit extérieure aux États-Unis, mais les Américains eux-mêmes et USAGM, comme Radio Free Europe et Radio Liberty, font des rapports d'évaluation de leurs audiences et de l'impact de leurs émissions sur les publics qu'ils visent. Et cela, on peut le consulter en consultant ce qu'on appelle les Special S Reports, qui, pendant le très long XXe siècle et au début du XXIe siècle, ont permis de recenser un petit peu au moins les audiences et les types de publics qui est visé, qui est touché par les émissions de ces différents médias d'État américains.
There are currently 129 nominees stuck in the Senate because of partisan obstruction.
129 candidats à des postes vacants sont actuellement bloqués au Sénat en raison de l'obstruction partisane. Dans certains cas, nous n'avons pas besoin de remplir ces postes, et je suis tout à fait d'accord. Mais dans de nombreux cas, il le faut. Et nous ne pouvons pas les faire approuver par les démocrates. Ils ne veulent pas libérer ces postes. Michael Pack, par exemple. C'est mon candidat au poste de PDG du Conseil des gouverneurs de la radiodiffusion et il est bloqué dans un comité depuis 2 ans, nous empêchant de gérer la voix de l'Amérique. C'est très important. Et si vous entendiez ce qui sort de la voix de l'Amérique, c'est dégoûtant. Ce qu'ils disent est dégoûtant à l'égard de notre pays. Et Michael Pack ferait un excellent travail. Mais il attend depuis 2 ans. Je n'arrive pas à le faire approuver.
Donald Trump, en avril 2020, lors de son premier mandat, qui a finalement réussi à placer ce Michael Pack à la tête de l'Agence américaine pour les médias internationaux, mais avait rencontré alors à l'époque une grande résistance des rédactions. D'ailleurs, Tristan Matelard, comment s'était-elle manifestée cette indépendance-là ?
Alors, d'abord, il essaye de reprendre le contrôle de la Voix de l'Amérique. Il va mettre fin à un certain nombre de contrats de journalistes, refuser que leur visa soit renouvelé, puisqu'on a affaire à des journalistes qui sont, pour une grande partie d'entre eux, des journalistes étrangers. Il va geler les fonds de certaines de ces stations. Il va éliminer leur dirigeants et les journalistes vont se rebeller contre lui, vont l'assigner en justice, vont obtenir gain de cause. Les tribunaux vont reconnaître le droit à la liberté d'expression de ces journalistes. Et surtout, Michael Pack va s'efforcer d'en finir avec le fameux pare-feu qui préserve la liberté éditoriale de ces journalistes. Mais il ne réussira pas et il sera débarqué à la fin de la première présidence Trump. Il faut souligner que Michael Pack est un proche de Steve Bannon. Hein, c'est-à-dire qu'on essaye d'utiliser la voix de l'Amérique hein, pour promouvoir la conception qu'on a de l'Amérique, cette conception trumpiste de l'Amérique à l'extérieur.
Steve Bannon, l'ancien conseiller Donald Trump d'extrême droite et qui affirmait récemment dans la Repubblica son intention que les conservateurs américains conquièrent tous les États un par un, les États européens. C'était ces mots. Maud Kessar ?
Oui, c'est très important ce que soulignait Tristan Matelard à l'instant, c'est de rappeler effectivement que le projet de contrôle des médias d'État par Trump s'inscrit dans ce projet idéologique et cette dérive autoritaire, et c'est un projet de long terme. Votre exemple est le rappeler à l'instant, une dérive autoritaire qui vise l'ensemble de l'appareil médiatique et des journalistes qui sont, pour Trump et ses partisans MAGA, dans le complot contre son courant politique MAGA. Et aujourd'hui, ce qui se passe vis-à-vis donc, des médias d'État extérieurs, de la radio publique NPR, qui est dans le collimateur aussi d'Elon Musk, et des universités participent de ce même projet. Il faudra quand même rappeler que les universités de la Ivy League qui sont complètement dans la cible de Trump et de ce projet forment à l'esprit critique et forment les journalistes des plus grands médias américains que les médias nationaux et des médias internationaux qui sont consultés par nous-mêmes. Donc ici, on a un projet de long terme pour lutter contre tout ce que Trump appelle tous les opposants ou les ennemis de l'intérieur. Et ces ennemis de l'intérieur, parmi eux, il y a surtout et avant tout les journalistes et les intellectuels.
Ce qui n'est pas sans faire penser à une autre période de l'histoire américaine qui était le maccartisme. On est là dans une critique permanente du gauchisme, entre guillemets, des journalistes. Tristan Matelard, est-ce que ça avait encore une fois déjà été le cas dans l'histoire récente des États-Unis? On a vu combien le pouvoir américain pouvait instrumentaliser ses radios, notamment après les attentats du 11 septembre 2001, quand George Bush avait dit qu'il fallait mener une guerre pour les cœurs et les esprits et fait ouvrir, il y avait déjà des services en langue arabe de Voice of America, mais fait ouvrir de nouvelles stations, Sawa par exemple, ou une autre un peu plus tard je crois en Iran. Est-ce qu'il était déjà arrivé qu'aussi frontalement un président américain s'oppose à ce qu'il appelle le gauchisme ou l'idéologisme des journalistes?
Merci pour votre question. Le précédent, ce serait l'époque du maccartisme, hein, qui a touché la voix de l'Amérique. Donc, il va s'en prendre, hein, à la voix de l'Amérique. Qu'est-ce qu'il cherche à la voix de l'Amérique? Il cherche des journalistes, hein, qui se sont opposés au nazisme et qui auraient des idéaux de gauche. En même temps, lorsqu'on écoute les émissions de l'époque, hein, on sent bien qu'il y a derrière la volonté de faire une chasse aux sorcières qui est motivée par pour d'autres raisons. Sur le début, George Bush et sa campagne, hein, après les attentats du 11 septembre, il va réagir différemment, c'est-à-dire qu'il va fermer la voix de l'Amérique qui diffusait en arabe, parce qu'il considère que les journalistes qui officient sur cette radio s'adressent à un public trop âgé. Il veut s'adresser aux jeunes. Et de plus, c'est vrai qu'il remercie ces journalistes en fermant la voix de l'Amérique en arabe, parce qu'ils font un trop grand usage de leur pouvoir de critique. Et lorsqu'il va créer une nouvelle radio, Radio Sawa, qui diffuse en ondes moyennes ou en modulation de fréquence, il reprend, enfin la station a une politique d'information qui fait preuve de beaucoup moins d'indépendance éditoriale à l'égard de à l'égard du gouvernement américain.
À l'époque, me semble-t-il, le discours du côté du président américain était assez clair, c'est-à-dire il faut faire la guerre contre le terrorisme par tous les moyens, y compris par la voie du soft power, comme on dit, ou pas, cette guerre pour les cœurs et les esprits. Aujourd'hui, l'argument avancé pour remodeler ces médias internationaux états-uniens ou pour les faire fermer, c'est comme tout pour tous les autres décrets qui supprime des agences gouvernementales ou qui essore les effectifs de la fonction publique, c'est toujours le même, celui des économies qu'il faudrait faire. Et pour les médias comme Voice of America, Radio Free Europe, c'est une proche de Donald Trump et ancienne présentatrice de télévision Carrie Lake qui s'en charge.
Je suis ici à Washington, D.C. en tant que conseillère principale à l'Agence des États-Unis pour les médias mondiaux. Je travaille depuis quelques semaines maintenant et je suis horrifiée par certaines choses que j'apprends sur cette agence. L'administration Biden, les personnes qui dirigeaient cette agence auparavant, juste avant de quitter leurs fonctions, ont signé un tout nouveau bail pour ce bâtiment, un bail de 15 ans. Cela va coûter aux contribuables près d'un quart de milliard de dollars. Je sais que chacun d'entre vous travaille d'arrache-pied et paie ses impôts. Vous vous attendez à ce que votre argent soit utilisé à bon escient et non qu'il soit mal géré. Et je peux vous dire que ce bâtiment est un énorme gaspillage d'argent. Et ce n'est pas la seule chose que nous avons vue. Je veux que vous sachiez que je travaille d'arrache-pied ici à Washington, D.C. Je m'assure que nous ne soyons pas escroqués.
Alors, Maud Kessar, est-ce que la mission de Carrie Lake, c'est véritablement de diminuer les budgets de ces médias internationaux, de licencier les journalistes, ou c'est aussi de changer la ligne éditoriale? Quel est son rôle à elle? Vous n'êtes plus avec nous, Maud Kessar.
Alors, clairement, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Allô?
Oui, on vous entend.
Clairement, on va pas se cacher derrière notre petit doigt. La mission de Carrie Lake, clairement, la mission de Carrie Lake est celle d'une idéologue, plus que d'une gestionnaire administrative ici. Ce n'est pas le quart de milliard qu'elle évoque qui pose problème pour le budget américain. C'est véritablement le projet et la parole de ces radios. Il faut rappeler quand même que Carrie Lake est totalement à la solde du mouvement MAGA et de Donald Trump. Et elle, son projet aux côtés de Donald Trump, c'est aussi de porter finalement une ligne éditoriale qui s'adresserait davantage, comme elle l'a déjà fait, aux partisans MAGA qui sont plus proches de la Faith and Freedom Coalition de Washington, que donc c'est-à-dire plutôt des chrétiens conservateurs avec un projet religieux. Et donc on n'est pas du tout dans le pluralisme des médias et la volonté de porter une parole de l'Amérique qui serait celle du monde libre hérité de 45. Donc c'est tout autre chose, et le prétexte en fait que l'on évoquait, qui est le prétexte budgétaire, est ici totalement fallacieux. On comprend bien aussi dans l'extrait que vous nous avez fait écouter l'idée, c'est toujours de s'en prendre aux prédécesseurs et à l'administration Biden, et là on est dans la ligne idéologique très claire de l'administration Trump. Tout ce qui a été porté par les démocrates auparavant doit être défait, et participe en fait de ce complot contre les MAGA et les partisans de Trump qu'il faut absolument dénoncer.
Tristan Matelard.
Oui, tout à fait. On a le budget de ces radios, c'est 860 millions de dollars hein, pour l'année 2025, si je me souviens bien. Là, il faut revenir à Joseph Nye dans son ouvrage de 2004 sur le soft power, justement. Joseph Nye expliquait que le budget de ces médias publics internationaux américains, il représente 0,29% hein, des dépenses militaires. Donc, si on veut faire des économies, il va falloir trouver d'autres moyens plus efficaces de le faire.
Mais le directeur de Voice of America, Michael Abramowitz, dit aujourd'hui que le démantèlement de Voice of America n'est pas dans l'intérêt des États-Unis de toute façon, puisque de l'autre côté, entre guillemets, la Chine, la Russie, elles mettent beaucoup d'argent dans leurs médias vers l'étranger pour s'adresser au monde entier, pour décrédibiliser les États-Unis aussi de leur côté. Est-ce que cette nouvelle donne, Maud Kessar, intéresse les journalistes conservateurs aux États-Unis, les influenceurs, les TikTokers, tous ceux qui défendent la ligne de Donald Trump de leur côté, et en particulier sur les questions internationales? Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez un mouvement parmi ces journalistes-là ou ces influenceurs, comme on dit, ou les podcasters, qui se disent « il y a des places à prendre pour nous »
Alors, c'est très intéressant parce que, en fait, ici, pour des podcasteurs comme Joe Rogan ou autres, l'actualité internationale ne vient que s'internaliser, ne vient que nourrir le projet national. Ils sont pas intéressés par l'actualité internationale ou par le fait de se mêler de politique étrangère, si ce n'est pour servir, en fait, un projet intérieur. Les podcasteurs à la solde de Trump et ceux qui ont même été placés au sein de l'administration, puisqu'on en a au sein du FBI, ce qui est très, très intéressant, eh bien, ces podcasteurs-là, eux, n'ont pas de vision véritablement à l'international. Ils sont juste proches, donc, de J.D. Vance ou d'un Peter Thiel. Et ils ont une stratégie, finalement, médiatique, une stratégie plus par les réseaux qui ramènent, donc qui attirent en fait d'autres auditeurs vers leur podcast, plutôt que de vouloir se substituer aux médias d'États internationaux. C'est pas véritablement leur projet. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que leurs paroles puissent être relayées par un certain nombre d'influenceurs dont l'objectif n'est pas un objectif politique, ni de porter la parole d'une démocratie américaine à l'étranger qui serait celle d'un modèle politique. Elle est tout simplement de faire des revenus économiques parce que certains contenus qui portent sur l'actualité internationale, que ce soit la guerre en Ukraine, le conflit à Gaza, ce qui se passe au Salvador, est repris sur leur plateforme et génère pour eux du contenu. Donc c'est plus un système de revenus économiques et qui fonctionne plutôt qu'un projet politique pour les influenceurs. Pour les podcasteurs, c'est un projet politique, mais c'est un projet politique et idéologique qui a une visée et une portée d'abord national.
Alors, les États-Unis réduisent drastiquement les investissements dans les médias étrangers internationaux des États-Unis, à l'inverse de la Russie et de la Chine. La Chine s'est réjouie, par exemple, de la fermeture annoncée de la Voix de l'Amérique, le soi-disant emblème de la liberté mis au rebut comme un vieux tapis, se réjouissait le journal nationaliste chinois Global Times. Le gouvernement chinois, lui, fait exactement l'inverse des États-Unis. Il continue à mettre beaucoup d'argent dans ses médias à l'étranger.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
CGTN, par exemple, la chaîne d'information chinoise en continu diffusée à l'international et supervisée directement par le département chinois de la propagande. Certains de ces journalistes parlent un anglais parfait et ont, eux aussi, appris à manier l'ironie pour mieux séduire notamment une audience états-unienne comme l'émission Fact Tell.
Lorsque le Washington Post a introduit son slogan « Démocratie dies in darkness » en 2017, cela a fait rire la presse et le public. Certains ont dit que cela ressemblait au prochain film de Batman. Mais les rires se sont vite estompés lorsque l'ironie sous-jacente est devenue étonnamment claire. La Maison-Blanche avait apparemment pour mission de discréditer les médias traditionnels en adoptant une approche délibérée, presque jubilatoire, consistant à mentir et à nier la vérité. Et dans les prochaines minutes, permettez-moi de vous expliquer comment le gouvernement américain a enfoncé un autre clou dans le cercueil de la démocratie, en veillant à ce que la démocratie meure et reste dans l'obscurité. Je m'appelle Simone et bienvenue sur Faxtel.
Bonjour Paul Charron.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur du domaine Influence et Renseignement de l'IRSEM, spécialiste de la propagande chinoise. Vous avez écrit l'article « Les États-Unis dans les programmes de la chaîne de télévision chinoise CGTN, pratiques discursives et stratégies d'influence » paru dans la revue politique américaine récemment. Qu'est-ce que c'est d'abord cette émission Facts Tell, présentée par cette journaliste chinoise dont on vient d'entendre la voix ?
Alors c'est une émission phare qui a été une émission phare de CGTN pendant 3 ans à peu près, qui a été créée au moment de la pandémie, enfin du pic de pandémie en 2020, et qui adopte complètement les codes du journalisme d'investigation occidental, mais en les détournant et en les utilisant contre principalement l'Occident, mais aussi le Japon, par exemple.
Fact-tel, d'ailleurs, le titre de l'émission emprunte au code du fact-checking, la vérification des faits. Et qu'est-ce que, en l'occurrence, je ne sais pas si vous avez regardé récemment les programmes, mais de quels programmes peut-on parler, de quelles enquêtes menées par ce média vous paraît-il intéressant de parler?
Alors, l'émission traite le plus souvent des États-Unis. C'est vraiment la cible principale de cette émission. Mais elle peut s'attaquer aussi au Japon, à des sujets plus transversaux comme l'économie mondiale, la question de l'Arctique, par exemple. Et l'extrait que vous avez passé est issu d'une émission très intéressante parce que elle attaque justement les États-Unis par une critique de la liberté de la presse. C'est-à-dire que l'émission essaye de montrer que la liberté de la presse est complètement fantasmée. En fait, elle n'est pas réelle aux États-Unis en raison de manœuvres, notamment de la CIA, puisque dans l'émission, il y a un extrait où on entend parler John Stockwell, qui est un ancien agent de la CIA impliqué dans l'opération Mockingbird, qui visait justement à intoxiquer les médias, non seulement américains, mais aussi mondiaux.
Pendant la guerre froide.
Et cet extrait, qui n'est pas daté, John Stockwell n'est pas vraiment cité, donc on ne comprend pas bien. Il y a vraiment une volonté de désorienter l'audience pour montrer que, pour faire croire que ce qui se passait à ce moment-là, entre la fin des années 40 et les années 60, la fin des années 60, continue aujourd'hui et que la cible principale des États-Unis, c'est bien la Chine aujourd'hui. Qui, avec une tentative de faire croire que les Ouïghours sont malheureux, sont opprimés, que les Tibétains le sont aussi, etc. Donc ils essayent de casser la rhétorique américaine sur ces sujets.
Il y a de quoi être désorienté d'ailleurs par ces enquêtes de l'émission Factcell, notamment sur l'opération Mockingbird. L'enquête se base sur des sources états-uniennes, le rapport américain de 800 pages de la Commission Church qui avait étudié déjà sur cette question, enquêté sur cette question, donc difficile à critiquer. Néanmoins, le ressort rhétorique, c'est de dire qu'aujourd'hui, les États-Unis continuent nécessairement à appliquer ce qu'ils faisaient pendant la guerre froide, si je comprends bien la façon dont tout ça est présenté. Et c'est à destination de qui? Qui est visé? Qui est censé être convaincu par ces discours-là? Est-ce que ce sont surtout les immigrés chinois, les États-Uniens d'origine chinoise?
Oui, tout à fait. Alors, juste pour préciser, enfin, ce qui est très intéressant avec cette émission, comme avec CGTN d'une manière générale, c'est justement l'utilisation de techniques discursives, rhétoriques extrêmement pointues, extrêmement abouties. Et donc, on a affaire à un média extrêmement moderne qui ne ressemble absolument plus aux médias communistes auxquels on était habitué auparavant. Et donc là, la cible, eh ben, c'est bien évidemment l'ensemble du monde anglophone, et pas seulement les États-Unis, et sans doute prioritairement le ce que les Chinois appellent le Sud global. Hein. Alors on n'a pas pour l'instant d'instruments de mesure encore, ou en tout cas d'enquêtes approfondies pour évaluer l'efficacité réelle de ces émissions, mais il faut s'en inquiéter parce que d'abord ça touche quand même un certain public, et puis ce sont des éléments qui viennent nourrir aussi les intelligences artificielles. Hein. Si les Chinois, comme d'autres puissances autoritaires, investissent autant dans ce type de médias, mais aussi dans des médias complètement clandestins pour le coup, c'est aussi pour nourrir les intelligences artificielles qui on le sait aujourd'hui grâce à plusieurs études, dans ces médias pour apporter des réponses aux utilisateurs.
Des médias qui sont aussi très présents sur les réseaux sociaux. CGTN, par exemple, a sur sa chaîne YouTube plus de 700 000 abonnés, 306 000 sur Instagram. Il y a aussi le site CGTN America qui, écrivez-vous, reçoit un peu plus de 300 000 visites par mois, mais avec un taux de rebond faible, puisque près de 80% des visiteurs ne consultent qu'une seule page. L'intérêt de ce sujet réside aussi dans ces détails. Dans les programmes, vous parlez d'une rhétorique discursive intéressante à analyser, Paul Charron, jusque dans les procédés grammaticaux, comment est-ce qu'on parle des États-Unis, le nous face à eux, en fait, d'une certaine façon?
Oui. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a Alors, moi, j'ai travaillé sur un corpus de production sur l'année 2023, et c'est vrai que le pronom nous revient très fréquemment, et il a deux usages, deux fonctions, si vous voulez. D'abord, c'est le nous de la Chine avec le reste du monde, montrer que la Chine s'inquiète, est bienveillante, qu'elle a une politique qui vise à faire le bien autour d'elle. Et puis il a aussi une fonction disjonctive, si vous voulez, puisque il permet de créer une séparation entre deux camps, le camp américain et le camp de la Chine et du reste du monde, qui est le camp du bien. Et voilà, donc ces structures grammaticales, quand on les étudie de manière quantitative comme ça, ça révèle aussi un certain nombre de stratégies.
Quand CGTN a été créé en 2008, je crois, à la fin des années 2000 en tout cas, quel était 2016, d'accord.
Oui,
quel était le modèle? Oui, 2008, il y avait déjà une tentative de...
C'était CCTV, en fait.
Voilà.
Nine.
Voilà. C'est l'ancêtre de CGTN. Au départ, c'était quoi? L'idée, c'était de ressembler plutôt à CNN, à Al Jazeera, ou à quel type de médias existants? Quelles sont les influences, aussi bien états-uniennes que russes, peut-être, avec Russia Today?
Oui, alors en fait, c'est exactement ces trois médias dans lesquels les Chinois puisent. CNN, parce que c'est le média dominant. Al Jazeera, parce que c'est un succès d'un média issu d'un pays qui n'était pas dominant à l'origine sur le plan informationnel. Donc, c'est une véritable remontée informationnelle, si vous voulez. Et puis, RT, pour la capacité d'innovation, l'utilisation de la satire, l'agressivité, etc. Et donc, on a... Si vous voulez, c'est bien en 2008 que l'idée germe de construire un média de rang international, parce que les Chinois ont eu le sentiment qu'autour des JO, ils avaient été incapables de faire entendre leur voix et que les critiques de la Chine, notamment les Ouïghours, les Tibétains, les démocrates, etc., avaient été trop présents sur la scène internationale. Et les Chinois estiment, et ils reprennent en cela le concept de...
Ah, Paul Charron, nous vous avons perdu. Vous parliez de l'idée en 2008 de contrer les discours qui, à l'époque, protestaient contre l'organisation des Jeux Olympiques en Chine. En quoi Russia Today a été un modèle? Est-ce que vous êtes encore avec nous? Oui, Paul Charron, on vous entend, vous avez encore quelques secondes.
Oui.
Oui, Paul Charron. Oui. Bon, il y a un très grand décalage.
Oui, pardon. Oui, c'est ça. Ils essayent de construire un véritable pouvoir discursif sur la scène internationale grâce à ces nouveaux médias.
Merci beaucoup, Paul Charron, d'avoir été avec nous. Comme il y a un gros délai qui s'est instauré pendant notre discussion, on va s'arrêter là, mais je renvoie les auditeurs vers votre article « Les États-Unis dans les programmes de la chaîne de télévision chinoise CGTN » dans la revue Politique américaine parue l'année dernière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, Tristan Matelard, peut-être un mot pour réagir. On est dans des modèles très différents, hein, CGTN et Voice of America, CGTN, et même avec Russia Today, CGTN a cette particularité de mettre en avant très clairement, très ostensiblement un modèle chinois, des valeurs chinoises. C'est peut-être ce qui diffère. Aujourd'hui, est-ce que Donald Trump, tout en mettant de côté ces médias internationaux qui pendant longtemps étaient censés porter la voix des États-Unis, est-ce que dans le même temps essaye de contrer l'influence sur le territoire américain de ces médias, en l'occurrence chinois, qui réussissent eux aussi à diffuser jusque-là?
Alors, en tout cas, sur le plan international, sa décision d'essayer, en tout cas, de fermer les médias publics internationaux américains ne peut que bénéficier à la Chine. Il faut rappeler l'importance de l'Afrique pour la Chine et aussi pour la Russie. L'Afrique, où les médias internationaux américains réalisent donc des audiences importantes.
Et les médias chinois aussi.
Et les médias, Alors ça, c'est plus compliqué.
C'est moins votre spécialité, mais on avait consacré une émission à ce sujet. Donc, culturellement. Maud Kessar, vous souhaitiez dire quelque chose?
Oui, deux points, et en réaction à ce que disait mon collègue Paul Charron, et pour poursuivre ce que disait Tristan Matelard, ne pas oublier qu'aux États-Unis, effectivement, la percée possible et qui est maximale et qui est un élément concurrent pour le soft power américain et pour l'entertainment américain, c'est bien sûr l'influence de TikTok qui inquiète beaucoup plus Donald Trump que CGTN sur le territoire américain. Et la réaction de Trump, c'est pas tant de se dire je vais mettre la main sur les médias d'État internationaux puisqu'il veut les museler, ou alors leur donner une ligne qui serait plus proche d'un projet idéal théologique et religieux, comme je le rappelais tout à l'heure. Lui s'aligne pour communiquer à l'international. C'est encore plus direct que toute diplomatie publique qu'on a pu voir au cours du long 20e siècle. C'est Trump Fake News. C'est la vérité alternative qui est maintenant la seule vérité qu'il veut porter, y compris sur les questions internationales, en tant que président des États-Unis, et où il s'adresse au monde entier dans les langues cibles, puisque Trump Fake News est disponible en français en France, il est disponible en japonais ou en toute autre langue celle des utilisateurs. Et dernier point, effectivement, le point crucial aussi pour nous, c'est le fait que Voice of America et ses affiliés dans les pays du Sud global, l'Amérique latine et l'Afrique, dans ces deux grands continents, eh bien, n'est plus finalement de la possibilité de financer des journalistes d'opposition. C'est une atteinte majeure à la liberté de la presse. Et si on a des techniques chinoises ou une présence chinoise de plus en plus sophistiquée sur ces territoires, Afrique et Amérique latine, eh bien, effectivement, c'est sans doute un gros pavé dans la mare du soft power américain, merci, tel qu'on a pu le décrire dans cette émission. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Maud Kessar. Je rappelle, vous êtes directrice du domaine Europe, Espace Atlantique, Russie, à l'IRSEM. Et merci à vous, Tristan Matelard, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Panthéon Assas. Nous remettons les références de vos ouvrages respectifs sur le site de Culture Monde. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est l'heure de la revue de presse internationale. Avec vous ce matin, Mathilde Ansker, et vous nous parlez d'une double peine.
Celle des femmes âgées victimes de violences conjugales en Espagne. Elles ont plus de 65 ans, elles représentent 13% des femmes assassinées et pourtant sont à l'origine de moins de 2% des signalements auprès de la justice. El País nous parle de ces femmes et leur donne la parole. On nous a appris à ne pas protester, à accepter et ne rien demander. Changer cette façon de penser à notre âge est difficile, écrit une femme victime. Des femmes qui ont passé leur jeunesse sous la dictature française, à une époque où elles étaient sous la coupe de leur père, puis de leur mari. Quand ces relations ont commencé, la violence était légitimée socialement, culturellement et légalement. Elle était normalisée, nous dit la responsable de la protection des victimes de la Croix-Rouge. Ce que nous raconte El País, c'est que ce phénomène est aussi invisibilisé. Quand on parle de violence conjugale, on pense à une jeune femme ou à une mère avec de jeunes enfants. Les femmes âgées ne sont pas dans les campagnes de prévention. Et on n'imagine pas non plus un homme âgé comme violent. Ces femmes victimes se confrontent donc à des services et des politiques publiques non adaptées. Difficile de remplir un formulaire en ligne quand on ne sait pas utiliser un ordinateur. Difficile donc d'échapper à la relation. Les politiques publiques partent du principe que la victime de violences conjugales est plus jeune, plus apte au travail et habituée à la technologie, explique El País.
Et pour finir, Mathilde, vous prenez un peu d'altitude.
Oui, CNN nous emmène sur l'Everest où des livraisons pourront être effectuées par drone. Alors non, il ne s'agit pas de se faire livrer un hamburger sur le toit du monde. Quoique, on va y revenir. Pour l'instant, ces drones seront utilisés pour transporter du matériel, des cordes, échelles ou bouteilles d'oxygène qui pourraient être particulièrement utiles pour les Sherpas, notamment ceux qui tracent les routes. C'est ce que nous explique le New York Times. Avant le début de la saison des ascensions, un petit groupe de Sherpas ouvre les voies que vont ensuite emprunter les alpinistes. Et l'avantage du drone, eh bien, c'est qu'il est rapide. Il faut 6 à 7 heures à un Sherpa pour aller du camp de base au premier campement de l'Everest. Là où le drone prend 6 à 7 minutes. Les drones servent aussi à ramasser des déchets. Près de 500 kilos ont pu être descendus du camp de base l'année dernière. Et le New York Times explique aussi que ces techniques sont déjà utilisées en Chine, où des drones servent notamment à livrer des repas chauds aux alpinistes. CNN nous dit que cette technologie pourrait changer l'escalade pour toujours. Alors, est-ce que les drones risquent d'amener encore plus de touristes sur le toit du monde? Ça, l'article ne le précise pas. Enfin, pour conclure, en un mot, si vous avez des questions sur l'actualité internationale, vous pouvez nous écrire. Nous vous répondrons dans la chronique interactive du samedi. Écrivez-nous donc à cette adresse fcrdpi@radiofrance.com.
Merci Mathilde Ansker.